Bonjour, dernière ligne droite de ce programme d'histoire, toujours dans le thème numéro 4, avec ses tiroirs territoriaux, le monde, l'Europe, la France depuis les années 90. Après un premier chapitre, où on a vu l'évolution des rapports de puissance depuis la fin de la guerre froide et l'apparition de ce que l'on a appelé un nouvel ordre mondial, qu'on a fini par résumer un nouveau désordre mondial, on change d'échelle pour se centrer sur le continent européen, ou plus exactement, parce qu'il y a toujours une ambiguïté lorsqu'on utilise le terme Europe, se centrer donc sur l'Union européenne, avec un titre de chapitre qui est la construction européenne entre élargissement, approfondissement et remise en question. Sachant que c'est une façon de présenter la question qui est tout sauf récente. Élargissement, c'est avoir de plus en plus de pays. Approfondissement, c'est une union où il se passe de plus en plus de choses, où il y a de plus en plus de domaines concernés donc par l'union entre les différents pays membres. Ce qui est nouveau, c'est l'idée de remise en question. Et sans spoiler la suite, vous voyez tout de suite à quoi fait référence notamment cette remise en question, le Brexit, hein, de 2016, qui pour la première fois a donc vu un pays se retrancher de cette construction européenne. Alors la construction européenne, ici, elle doit être vue en montrant les évolutions, les avancées et les crises de cette construction européenne. Donc je vais commencer par faire un petit rappel historique, ce qui est très pratique dans un cours d'histoire. En vous rappelant donc que le point de départ de la construction européenne, le point de départ traditionnel, c'est le 9 mai 1950, ce qu'on appelle la déclaration Schuman, du nom d'un ministre français des Affaires étrangères, qui propose de mettre en commun la production d'acier et de charbon de la France et de l'Allemagne. On est en 1950, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est évidemment une tentative qui est extrêmement à la fois courageuse et un petit peu insensée, 5 ans après cette guerre, d'imaginer que Français et Allemands puissent coopérer. Comme ce projet est ouvert, d'autres pays vont s'y joindre, un grand pays européen, mais également un vaincu de la Seconde Guerre mondiale, même si sa position a été un peu particulière, c'est l'Italie. Et puis ce que j'appelle les trois petits, trois pays qui avaient déjà amorcé une union entre eux sous le nom de Benelux, ces trois pays étant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc ce sont ces six pays qui vont être à la base de ce que l'on va appeler la construction européenne. D'abord centré sur ces deux productions, du charbon et de l'acier, ça donne naissance à une première organisation européenne qui s'appelle la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On a ensuite un deuxième projet, n'oublions pas qu'on est dans la guerre froide, et qu'on craint qu'à un moment donné, potentiellement, les États-Unis se retirent de l'Europe. Donc la deuxième idée va être l'idée d'une communauté européenne de défense, donc créer une sorte d'armée européenne. Donc ce projet, il est lancé à la suite du début de la CECA. C'est un projet qui échoue parce que en France, l'idée d'avoir une Allemagne qui se réarme est une idée qui, évidemment, est assez mal acceptée par toute une partie des Français et de la classe politique française. Donc le milieu des années 50, c'est une période un petit peu de flou, On ne sait pas si on va aller plus loin que la simple communauté du charbon et de l'acier. Et puis, 1955, il y a une relance, ce qu'on appelle la relance de Messine en Italie, suite à une réunion des différents partenaires européens. Et la relance de la construction européenne aboutit à la création de deux nouvelles assemblées, de deux nouvelles structures de coopération. La première, qui est très ponctuelle et qui vise à l'énergie atomique, à travailler sur l'énergie atomique, c'est ce qu'on appelle le CEE, pardon. La communauté économique à l'énergie atomique, ça y est, je l'ai trouvé dans le bon sens. En fait, je ne trouvais pas le sens parce qu'on l'appelle plus couramment Euratom. Et puis surtout, plus importante et plus durable et plus présente dans la vie quotidienne de chacun, la création par le traité de Rome de mars 1957 de la CEE, la communauté économique européenne. Ce projet européen donc devient plus large puisqu'il s'agit désormais de créer ce qu'on appelle un marché commun, c'est-à-dire de permettre la libre circulation des marchandises entre les différents pays qui constituent cette communauté économique européenne. Alors on ne manque pas d'ambition, on a des idées pour la suite. Mais ce qui va traverser les années 60, c'est un petit peu des problèmes de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, avec un pays, la France du général de Gaulle, qui n'est pas toujours extrêmement docile, et à plusieurs reprises, de Gaulle rue dans les brancards, paralyse l'activité de la construction européenne, notamment sur la question de l'entrée d'un pays qui se veut candidat après avoir décliné la proposition qui lui avait été faite au début de rentrer dans cette construction européenne. Ce pays, c'est le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni par deux fois, de Gaulle dit non, mais une fois de Gaulle ayant quitté le pouvoir et étant mort, ce qui est encore plus rassurant pour les Britanniques. Une fois donc de Gaulle disparu, les Britanniques posent leur candidature à l'entrée dans la communauté économique européenne. Ça se fait en 1972. Ils ne sont pas les seuls. Avec eux, il y a le Danemark, l'Irlande et la Norvège. La Suisse, un temps, y avait songé et finalement n'est pas allée plus loin. Quatre candidats, mais trois pays seulement qui rentrent dans cette communauté économique européenne au 1er janvier 1973. Les Norvégiens, un peu comme les Suisses, décidant au dernier moment, sur vote de leur population, de ne pas intégrer la structure européenne. Donc on se retrouve d'une Europe des 6 au début à une Europe des 9. L'élargissement va ensuite concerner les pays du sud de l'Europe. C'est d'abord au début des années 80 la Grèce, puis ensuite au milieu des années 80, après tout un tas de conflits parce que on craint, notamment en France, tout ce qui est agriculture des pays de l'Europe méditerranéenne qui pourrait concurrencer notre propre agriculture des fruits et des légumes. C'est donc le Portugal et l'Espagne qui ont en commun avec la Grèce d'être des pays récemment sortis de la dictature, on avait vu ça dans le thème précédent, qui vont entrer dans l'Union européenne, dans la communauté économique européenne. On est donc à 9 plus 3, 12 pays. Et c'est ces 12 pays qui vont être ensuite rejoints par trois nouveaux pays, qui cette fois-ci sont des pays de l'Europe du Nord, puisque vous allez avoir l'entrée de la Suède, de la Finlande La Norvège était à nouveau candidate, bis repetita, elle a refusé. Et on a un pays qui, lui, n'est pas d'Europe du Nord, mais de l'Europe tout à fait centrale, qui est l'Autriche. Donc on passe de 12 à 15. C'est à ce moment-là que survient la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, elle va voir les pays de l'ancien bloc de l'Est, les pays de l'Est de l'Europe orientale, se précipiter d'une certaine manière vers cette construction européenne pour réclamer d'y entrer. Et ça va se faire finalement relativement rapidement, puisque les trois derniers pays qui sont rentrés, donc la Norvège, la Finlande et l'Autriche, l'ont fait en 1994. Les nouveaux pays, eux, vont entrer en 2004. 10 ans plus tard, vous pouvez dire, ça fait 15 ans après la fin de la guerre froide, oui, mais il faut que ces pays, pour pouvoir entrer dans la structure européenne et atteindre un certain niveau de développement et réaliser un certain nombre de transformations de leur structure économique. On passe de pays qui étaient des pays communistes à des pays qui doivent donc fonctionner désormais selon le système du capitalisme libéral. Donc ça prend un certain temps. Donc on va passer entre 1994 et 2004 à 10 pays de plus. 8 qui sont ce que l'on appelle des PECO, des pays de l'Europe centrale et orientale. Donc vous avez les trois pays baltes, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, vous avez la Pologne, vous avez la Hongrie, vous avez la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, je crois que je n'en ai pas oublié. Et puis vous avez deux petits pays méditerranéens, deux îles, qui sont Malte et Chypre. Il y a deux autres pays qui sont préprogrammés pour entrer dans ce qui s'appelle désormais l'Union européenne, c'est la Roumanie et la Bulgarie, mais la Roumanie et la Bulgarie sont encore plus en retard donc dans leur transition économique, donc on va attendre et ils n'y entreront qu'en 2007. On est à ce moment-là à 27 pays membres. Un 28e rejoint l'ensemble dans les années 2010, c'est la Croatie, donc premier pays issu de l'ex-Yougoslavie, pardon, deuxième pays issu de l'ex-Yougoslavie. Le premier, c'était la Slovénie, le deuxième, la Croatie. Ce qui amène à évoquer le fait qu'un certain nombre d'autres pays voudraient rentrer dans cette construction européenne. Alors il y a eu des candidatures un petit peu fantaisistes. Le Maroc a été deux fois à venir solliciter en disant est-ce que je peux rentrer? Après tout, l'Espagne, le Maroc, c'est la continuité, etc. etc. Je vous ai parlé de la Suisse qui a pensé mais qui n'est pas allée bien plus loin. De la Norvège candidate deux fois et qui s'est dérobée. Et puis vous avez des pays qui sont candidats à l'entrée en l'Union européenne, qui en quelque sorte ont déposé des dossiers, mais des dossiers que l'on fait traîner pour des raisons diverses et variées. Parmi les pays qui ont candidaté et qui posaient problème, et donc on a fait traîner les choses jusqu'à arriver à une situation aujourd'hui où il n'en est plus question, vous avez la Turquie, et puis vous avez des pays issus de l'ancienne Yougoslavie, donc comme la Serbie ou le Monténégro ou la Macédoine, qui souhaiteraient entrer dans l'Union européenne. Manque de bol pour eux, on s'est rendu compte qu'on a fait entrer trop de pays en un temps très limité et que ça a compliqué le fonctionnement de cette structure européenne. Donc, pas à court terme de possibilité de voir des pays nouveau entré dans cette structure européenne. Petite remarque, toute petite, il y a quelques pays qui, en tant que tels, ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui y sont quand même, comme l'Andorre, le Vatican, la République de San Marin ou le Liechtenstein, c'est-à-dire des micro-États européens qui, étant enclavés finalement au milieu de cet ensemble européen, s'y trouvent quand même rattachés de manière indirecte. Donc ça, c'était la question de l'élargissement. On est passé de 6 pays à 28 au maximum. Si les choses s'étaient bien passées, on aurait peut-être pu se retrouver à une trentaine de pays sur la quarantaine que contient le continent européen, sachant que il faut encore aujourd'hui bien distinguer ce qui est le continent européen et ce qui est la construction européenne. Les deux choses ne sont pas équivalentes. Donc, la construction européenne, c'est de l'élargissement, c'est de plus en plus de pays, mais c'est aussi de l'approfondissement, c'est-à-dire des mesures qui ont été prises pour faire en sorte que cet ensemble européen fonctionne le mieux possible et fonctionne sur un nombre de questions, dans un nombre de domaines importants. À l'origine, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une construction européenne, mais qui est économique. On est parti du charbon et de l'acier, on est passé ensuite à la création d'un marché commun. L'approfondissement, ça a été d'aller dans des domaines différents. Et dans ces domaines différents, il y a bien évidemment, et c'est ce qui fait la particularité de l'ensemble européen par rapport aux autres structures de même type marché commun dans le monde, c'est que il y a à l'intérieur de l'Union européenne la possibilité non seulement que les marchandises et les capitaux circulent librement, mais aussi que les personnes circulent librement. C'est, vous connaissez ça, même si vous avez peut-être là tout d'un coup un doute concernant la datation, c'est ce qu'on appelle le fameux espace Schengen. Si vous allez dans un aéroport, vous remarquez des panneaux espace Schengen, pas espace Schengen, selon où vous allez. Donc l'espace Schengen, il a été pensé en 1985 par la signature d'un traité et il est entré en vigueur 10 ans plus tard. En 1995, le temps de mettre au point tous les problèmes, de régler tous les problèmes que cela posait. Puisque ça veut dire que si les personnes et les marchandises peuvent circuler librement entre tous les pays, il faut certes supprimer les douanes entre les pays, exemple la France et l'Allemagne, hop, vous vous engagez sur un pont sur le Rhin et vous passez d'un pays à l'autre, personne ne vous arrête. En revanche, il faut que les frontières et les douanes aux limites de l'ensemble européen soient, elles, renforcées. Il va y avoir une organisation qui va être créée pour gérer ça. C'est une organisation qu'on appelle Frontex, qui s'occupe donc de gérer les entrées et les sorties, de surveiller les mouvements de population qui pourraient se faire pour entrer, plus que pour sortir, de l'Union européenne. Si les gens peuvent librement circuler, on peut se poser la question de savoir s'ils ont encore un pays d'appartenance. Bien sûr, ils sont français, ils sont danois, ils sont italiens, ils sont espagnols. Mais finalement, très rapidement, on va évoluer vers le principe d'une citoyenneté européenne. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres structures du même type dans le monde, vous êtes citoyen français, mais vous êtes en même temps citoyen européen. Les deux formules apparaissent notamment sur les passeports. Donc, vous avez la création d'une citoyenneté européenne qui fait que si vous êtes quelque part dans le monde en galère et que vous avez besoin de vous rapprocher d'une structure politico-administrative pour des démarches, on vous a volé vos papiers ou des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de chercher une ambassade ou un consulat de France, vous pouvez rentrer dans une ambassade espagnole ou un consulat danois et vous serez accueilli comme si vous étiez danois ou je ne sais plus l'exemple que j'avais donné, parce que vous êtes citoyen européen. Potentiellement, vous pouvez vivre dans le pays de l'Union européenne que vous souhaitez, donc vous avez une citoyenneté européenne. Et une des conséquences de cette situation, c'est qu'il a fallu, pour que vous puissiez vivre, travailler dans n'importe quel pays de l'Union, il a fallu adapter tout un tas de choses, et notamment les systèmes scolaires, les diplômes, de manière à ce qu'un diplôme obtenu en France puisse vous permettre de travailler sur, je sais pas moi, le marché portugais, grec ou autrichien. Donc, l'approfondissement européen, c'est ça. C'est le fait qu'on est allé au-delà du simple secteur économique pour toucher d'autres domaines. Ces autres domaines sont des domaines dans lesquels notre vie quotidienne se retrouve, donc le travail, l'école, etc. Bien évidemment, si les gens peuvent circuler librement, si les marchandises, c'est l'objet du marché commun, peuvent circuler librement, il faut des moyens de transport, des structures de transport qui permettent ces déplacements. Alors, il y a bien sûr le secteur aérien, mais la construction européenne, ça a aussi été le développement de routes, surtout d'autoroutes, permettant donc de circuler à l'intérieur de l'Europe. Vous avez peut-être remarqué, surtout si vous vous occupez du code de la route, que vous avez des panonceaux verts au-dessus des axes de direction. Ces panonceaux verts correspondent à ce qu'on appelle des axes européens, donc les transports. La manifestation la plus connue, parce qu'elle nous touche à nous, mais il y en a d'autres, pas du même style, mais aussi importantes qui peuvent exister en Europe, c'est le tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche qui permet de résoudre le problème lorsqu'il est construit au début des années 90, pour une inauguration en 1994, qui permet de rattacher finalement la Grande-Bretagne au reste du continent par un système donc double, à la fois de trains à grande vitesse, ce qu'on appelle les Eurostars, et des navettes dans lesquelles vous rentrez avec votre voiture pour pouvoir donc passer soit du continent vers la Grande-Bretagne, soit de la Grande-Bretagne vers le continent. Donc c'est un moyen de rattacher finalement encore plus fortement l'économie britannique au reste de l'économie de l'Union européenne. L'approfondissement, ça a été aussi un projet important sur lequel je vais passer assez rapidement pour pas rentrer dans les détails. Si les Européens peuvent circuler librement, si les marchandises circulent librement, eh bien, il faut, pour que les choses soient le plus efficaces possible, que ces Européens puissent utiliser la même monnaie. Et là encore, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde, une même monnaie qui est valable dans plusieurs pays. Donc vous changez de pays, vous n'avez pas besoin de passer, faire changer votre argent, vous gardez les mêmes pièces et les mêmes billets, et si vous libellez un chèque, ben vous le libellez dans la même unité monétaire. Cette unité monétaire, évidemment, c'est l'euro. Alors c'est un projet qui est présent depuis longtemps dans les têtes. On commence à en parler fin des années 60, début des années 70, mais c'est très très loin. On va d'abord réussir, parce que c'était le problème, à assortir un petit peu les monnaies des différents pays, parce que ces monnaies changeaient de valeur les unes par rapport aux autres. Donc c'était compliqué, c'était très complexe. Il y avait des monnaies très fortes, genre le mark allemand, et puis il y avait des monnaies plus faibles, quasiment folkloriques, dans leurs variations, comme la lire italienne ou la peseta espagnole. Donc on va imaginer un système qui va prendre des pourcentages de valeur du mark, des pesetas, du franc, etc., pour aboutir à une unité de compte européenne qu'on appelle donc l'ECU, European Count Unity, et cette ECU va être en fait la base de l'euro. Logiquement, l'euro aurait dû s'appeler ECU, mais il paraît que dans certaines langues, le terme veut dire des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait en rapport avec une monnaie, tandis que euro, ça passe parfaitement. Donc cet euro, il entre en vigueur en fait en 1999, mais au début, il ne sert que pour les transactions entre entreprises, etc. Pour les Européens proprement dit, en tout cas les Européens qui sont qualifiés pour l'euro, parce qu'il faut remplir un certain nombre de critères pour avoir le droit d'accepter l'euro, d'adopter l'euro. La date clé, c'est le 1er janvier 2002. Le 1er janvier 2002, par un effort logistique extrêmement impressionnant, qui fait qu'on se demande comment, dans la pandémie actuelle, on n'est pas foutu de gérer deux, trois trucs. Le 1er janvier 2002, partout en France, partout dans les quelques pays qui ont adopté l'euro, vous vous présentez au guichet. Automatique, et là où la veille on vous donnait des francs, des lires ou des marques, eh ben on vous donne les nouveaux billets en euros. Donc l'euro n'est pas pour tout le monde. De plus en plus de pays vont chercher à rentrer dans ce qu'on appelle la zone euro, sauf certains pays qui, dès le départ, ont dit non. Sans surprise, parmi les pays qui disent non, on a un pays qui a dit non déjà à l'espace Schengen, c'est le Royaume-Uni, qui refuse l'idée de perdre le contrôle de sa monnaie, la livre, et qui va donc être non pas forcément un opposant, mais en tout cas quelqu'un qui va profiter des possibilités qu'offre la législation au sein de l'Union européenne, qui lui donne la possibilité de refuser d'appliquer certaines mesures. Notre pays va refuser l'euro, c'est le Danemark. Et puis il y a un cas particulier qui est le cas de la Suède, qui officiellement n'a pas refusé l'euro, mais n'a jamais basculé vers l'euro, ce qui fait que chaque année, elle doit payer des amendes pour ne pas avoir respecté sa signature. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, les Suédois sont toujours pas décidés à abandonner leur couronne suédoise pour passer à l'euro. Donc tout ça peut paraître, à quelques détails près, relativement positif. Et pourtant, ce projet européen, il va se heurter à toute une série de résistances. J'ai parlé tout à l'heure de la résistance du général de Gaulle dans les années 60 pour l'entrée des Britanniques. Mais la plus forte résistance, finalement, c'est ce que l'on appelle l'euro-scepticisme ou l'euro-pessimisme, c'est-à-dire l'attitude de citoyens européens qui soit ne croient pas au projet européen, soit s'y opposent. S'y opposent pour plusieurs raisons. Il y en a deux principales que je vais mettre en évidence. La première raison, c'est le fait que on veut défendre avant tout son pays. Donc c'est plutôt une réaction nationaliste. Je ne veux pas de tout ce qui est européen parce que les décisions européennes, elles se prennent au-dessus de mon pays. La deuxième type, d'opposition à cette avancée européenne, c'est ceux qui rejettent la logique qui est derrière la construction européenne. Puisque la construction européenne, à la base, elle est économique, donc c'est une logique de capitalisme libéral. Ce qui a été fait a essentiellement été fait avec des objectifs économiques. On parle depuis longtemps d'une Europe culturelle, on parle d'une Europe sociale, et l'Europe culturelle, comme l'Europe sociale, à quelques petites mesures près, n'ont jamais dépassé le stade des intentions. On ne cherche pas à ce que tous les Européens aient la même durée du temps de travail. On ne cherche pas à ce que tous les Européens profitent des mêmes garanties, je ne sais pas moi, dans l'organisation et le soutien apporté à leurs activités culturelles, par exemple le cinéma. Donc, sur ces questions-là, l'Union européenne ne progresse pas trop, et donc les opposants à cette construction européenne sont des gens qui sont plutôt situés à gauche et qui trouvent donc que bon, l'idée européenne c'est sympa, mais ça ne profite en gros qu'aux patrons et ça n'a pas d'impact positif pour les gens qui y travaillent. Dans l'histoire récente de cette construction européenne, il y a un moment qui symbolise bien cet euroscepticisme, c'est en 2005 la question du traité constitutionnel. On avait imaginé de pousser la construction européenne jusqu'à créer une constitution européenne. C'est l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait dirigé une commission de travail qui avait abouti donc à un texte constitutionnel. Et ce texte constitutionnel, j'ai du mal à le dire, avait pour objectif d'organiser finalement l'Union européenne en lui donnant un président et un responsable de la diplomatie européenne. Autrement dit, de donner des têtes bien visibles, bien identifiables à cette Union européenne. Bon, le traité contenait tout à fait d'autres choses, hein, puisqu'il s'agit d'une constitution, donc on organisait les pouvoirs, etc., etc. Sauf que ce traité constitutionnel, il a été adopté dans un certain nombre de pays, essentiellement par le vote des assemblées, mais en France, on a décidé que ce serait quelque chose qui serait fait d'un point de vue référendum. C'est-à-dire que le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a dit « Eh bien, ce sont les Français qui décideront. » Et patatras, le jour du référendum, les Français votent non. Donc, le projet de constitution européenne se trouve enterré. On se retrouve finalement à un retour, pas au point de départ, mais on avait plein d'évolutions qui étaient présentées, donc on pensait que ça allait se faire, et puis non, finalement, ça ne se fera pas. La solution, elle va venir essentiellement sous l'impulsion du nouveau président de la République française, Nicolas Sarkozy. Cette nouvelle impulsion, elle va aboutir en 2007 à ce qu'on appelle le traité de Lisbonne, qui est le dernier grand traité européen au niveau de l'organisation de l'Union. En fait, le principe du traité de Lisbonne, c'est que on a repris en gros ce qu'il y avait dans le projet constitutionnel, on l'a mis dans ce traité qui modifie les deux traités qui existaient jusqu'alors, le traité de Rome de 1957, le fameux traité de Maastricht de 1992 qui a créé l'Union européenne. Et en fait, le traité de Lisbonne, c'est un petit peu comme, je dirais, un antivirus informatique. Il est allé modifier les choses qui n'allaient pas dans les deux traités qui existaient déjà. Et donc, on s'est retrouvé avec une nouvelle organisation de l'Union européenne. L'euroscepticisme n'y a pas gagné, parce qu'évidemment, beaucoup d'Européens se sont dit, mais finalement, c'est quoi notre poids là-dedans, notamment en France. On dit non à un projet, et ben on le fait adopter d'une manière détournée. Autrement dit, ben notre vote à nous, citoyens, il n'a pas grande importance. Donc là, il y a une faille qui s'est creusée chez ceux qui étaient déjà opposés un petit peu à la construction européenne. Et puis, dans les années 2010, avec la montée en Europe de ces régimes qu'on appelle des régimes illibéraux, c'est-à-dire qui sont des démocraties de moins en moins démocratiques, c'est le cas en Pologne ou en Hongrie par exemple, on a commencé à se poser des questions sur quelle pouvait être l'évolution, le devenir de cette Union européenne. Il y a dans ces cas-là toujours deux solutions. Il y a ceux qui veulent continuer à avancer, quitte à avancer de manière rapide, à marche forcée, et ces gens-là traînent derrière eux des gens qui, au contraire, sont extrêmement frileux et trouvent qu'on est déjà allé trop loin, donc il n'est pas question d'aller encore plus loin. Parmi ces gens extrêmement frileux, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a les Britanniques. Donc les Britanniques vont en 2016 voter pour le Brexit. Je rentre pas dans le détail du Brexit. En fait, c'est un calcul politique anglais du Premier ministre conservateur David Cameron qui tourne mal. Il pensait utiliser ce référendum pour faire pression sur l'Union européenne et avoir des avantages supplémentaires. Sauf que le référendum lui est revenu dans la figure un peu comme un boomerang. Et une fois que les Anglais ont eu voté non, c'est-à-dire on veut plus être relié à cette Union européenne, bah, il s'est posé tout un tas de problèmes extrêmement compliqués à résoudre, puisque ça voulait dire démonter toute une série de législations, d'accords, notamment commerciaux, et ça a pris du temps, puisque en fait, officiellement, le Brexit est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Donc, la construction européenne, il y a eu élargissement, il y a eu approfondissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont quand même les remises en question qui ont le plus de poids. Et si on interroge l'opinion publique dans beaucoup de pays européens, contrairement aux années 70, par exemple, ben, la construction européenne, c'est plus un truc qui fait trop rêver. Les difficultés font que les pays, et on le voit encore dans le contexte de pandémie actuelle, les pays ont plutôt tendance à se refermer sur eux-mêmes, à penser d'abord à leur propre intérêt, plutôt que d'imaginer un intérêt commun et un avenir commun avec les autres pays européens.